Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi lance une sévère mise en garde aux élus qui manipulent les groupes armés.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta lance une concertation nationale sur la révision constitutionnelle.
En Égypte, le Parlement a approuvé hier un amendement à la Constitution ouvrant la voie à une prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi.
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame a provoqué un élan de solidarité sans précédent pour rebâtir ce joyau gothique, symbole de Paris.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a lancé hier un avertissement sans précédent aux élus qui, selon lui, manipulent les groupes armés. Il les a menacés de poursuites pour complicité d'assassinat. Le point avec Eddy Issango.
Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé hier à Beni, dans le Nord Kivu. « J'ai averti tous les acteurs qui manipulent les groupes armés. La loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur », a-t-il déclaré dans une mise en garde. « Tous ceux qu'on arrêtera, qu'ils soient députés national ou provincial, pas question d'immunité. Il sera traduit devant la justice et il sera condamné pour complicité d'assassinat », a poursuivi le président congolais. Aux combattants des groupes armés, il a demandé de déposer les armes car il n'y a plus de raison de faire la guerre, a-t-il dit. La veille à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, il a réuni un conseil de sécurité. À Lubumbashi, le week-end dernier, il avait constaté un déficit criant d'encadrement des hommes de l'armée et de la police. Il s'agit de sa première tournée dans l'intérieur du pays depuis son investiture le 24 janvier. Monsieur Tshisekedi n'a toujours pas formé de gouvernement et travaille soit avec des ministres de l'ancienne équipe du président Kabila, soit avec des intérimaires. Il n'a pas non plus procédé à des réformes majeures au sein de l'appareil sécuritaire à par un changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mardi soir, dans une allocution radio-télévisée, l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales du pays sur le projet de révision constitutionnelle. M. Keïta a aussi abordé, entre autres sujets, l'école et la situation dans le centre du Mali. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ibeka a commencé son discours par l'incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris.
J'aimerais inviter tous nos compatriotes à se joindre à la douleur de la communauté chrétienne qui pleure Notre-Dame de Paris. Le joyau ravagé par le feu avait su traverser le temps. Aujourd'hui, il n'appartient plus à une confession, il est un trésor mondial.
Abordant les sujets nationaux, il dit que le salaire des enseignants grévistes sera débloqué avant de déplorer l'attaque d'Ouagadougou.
L'État, pour sa part, n'acceptera pas de dérogation et il sévira avec la même rigueur contre toutes les milices et tous les fauteurs de guerre. Les mesures nécessaires ont été prises au niveau du gouvernement pour que des contingents supplémentaires des forces armées et de sécurité soient déployés sur le terrain.
Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, Ibeka propose un débat national en préalable de la tenue d'un référendum.
Aussi ai-je décidé de confier à un groupe de 1000 personnalités la tâche de diriger cette concertation nationale qui se réunira du 23 au 28 avril 2019, qui réunira tous les membres de toutes les forces politiques et sociales de notre pays.
Lors de son adresse à la nation, la principale revendication des Maliens relative à la démission du Premier ministre n'a pas été évoquée par le président Ibeka. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé un émissaire pour le Soudan afin d'aider l'Union africaine à conduire une médiation alors que le Conseil de sécurité reste divisé sur ce dossier. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Nicolas Ezom, un avocat sud-africain, fera tout ce qu'il peut pour soutenir les efforts de l'Union africaine. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il a précisé qu'Antonio Guterres a discuté par téléphone avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, du rôle de Nicolas Ezom, qui a déjà rempli des missions pour l'ONU en Somalie, en Afghanistan, au Soudan et au Soudan du Sud. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fermement condamné la prise de pouvoir par l'armée et a menacé de suspendre le Soudan si l'armée ne cède pas le pouvoir à une autorité civile dans les 15 jours. Vendredi, lors d'une session à huis clos, les 15 membres du Conseil de sécurité n'ont pas réussi à s'entendre. La Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale se sont opposés à l'approbation d'un texte estimant que la crise au Soudan est une affaire interne qui ne menace pas la paix et la sécurité internationale.
En Égypte, le Parlement a approuvé hier un amendement à la Constitution permettant au président Abdel Fattah al-Sissi, élu en 2014, de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le point avec Nathalie Barge.
Le texte a été approuvé par une majorité des 596 députés. Le nouvel article 140 permet ainsi de faire passer le deuxième mandat de M. Sissi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Le chef de l'État égyptien pourrait en outre se représenter en 2024 un troisième mandat de 6 ans. Ce vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours. La campagne a déjà commencé avec plusieurs banderoles déployées dans les rues du Caire. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle doit aussi accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée. Abdel Fattah el-Sissi a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi, dont il était le ministre de la Défense. Sa réélection en 2018 a eu lieu dans le cadre d'un scrutin marqué par une série d'arrestations. Monsieur Sissi, 64 ans, est accusé par les ONG de graves violations des droits humains, dont la torture, des disparitions forcées, exécutions capitales, emprisonnement d'opposants et musellement de la presse.
En Libye, au moins 2 civils ont été tués hier soir dans des tirs de roquettes sur la capitale Tripoli, cible depuis le 4 avril d'une offensive meurtrière de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Selon des journalistes de l'AFP, au moins 7 puissantes explosions ont secoué le centre de la ville. L'OMS signale pour sa part qu'au moins 174 personnes ont été tuées et 758 blessées, dont des civils, depuis le 4 avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame, joyau gothique symbolique de Paris, provoque un élan de solidarité sans précédent. Une souscription nationale des cagnottes à l'appel, des dons de grosses fortunes et peut-être bientôt une conférence de donateurs. Le point avec Morgane Guériec.
Apple, la Banque Centrale Européenne, des milliers d'anonymes. Les promesses atteignent au moins 800 millions d'euros. La barre du milliard devrait être facilement franchie. Les sommes devraient continuer à affluer après l'appel à la mobilisation lancé par le patronat français aux entrepreneurs. Parmi les donateurs figurent de nombreuses associations, fondations et entreprises. Plusieurs grandes fortunes de France ont sorti leur carnet de chèques. La famille Pinault a promis 100 millions d'euros. La famille Arnault annonce un don de 200 millions. Et la famille Bettencourt-Meyers promet autant. Et dès lundi soir, le président Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée pour une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution de 50 millions d'euros de la ville et souhaite organiser dans les prochaines semaines une grande conférence internationale des donateurs.
Ici à Washington, le président Donald Trump a usé hier soir de son veto contre une résolution des deux chambres du Congrès qui l'exhortait à arrêter tout soutien américain à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen. M. Trump s'opposait ainsi pour la deuxième fois en 2 mois à une décision des parlementaires américains qui n'ont pas le nombre de voix requises pour passer outre cette fois-ci encore. Cette résolution est une tentative inutile et dangereuse d'affaiblir mes pouvoirs constitutionnels, mettant en danger des vies de citoyens américains, a déclaré le président Trump dans un communiqué.
Le gouvernement américain doit annoncer ce mercredi de nouvelles sanctions contre le Venezuela et aussi Cuba et le Nicaragua dans le cadre des dernières décisions en date contre les gouvernements socialistes des Amériques. Pour l'administration Trump, le départ de Nicolas Maduro du pouvoir et son remplacement par le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays, constitue une priorité. En prélude à un discours aujourd'hui à Miami, le conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton a souligné que Washington n'exclut aucune option concernant le Venezuela.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le plus gros employeur privé du Libéria, la compagnie de pneus Firestone, a annoncé hier le licenciement de 200 de ses 6200 employés qui devraient être suivis de 400 départs supplémentaires. Cette décision est due à la baisse de la production, conséquence de la chute des cours du caoutchouc sur le marché mondial. Firestone assure que les travailleurs licenciés seront indemnisés. Les cours mondiaux du caoutchouc ont chuté de 5 000 $ la tonne à seulement 1 000 $, entraînant un effondrement des revenus des cultivateurs, d'EVEA. La Commission européenne a retiré hier de sa liste noire des compagnies aériennes TAG Angola Airlines. Cette société nationale angolaise est donc de nouveau autorisée à exploiter ses appareils dans le ciel de l'Union européenne, de même qu'Elima Longo, une compagnie basée aussi en Angola. Plus de 120 sociétés aériennes font toujours l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne pour manque de supervision de la sécurité par les autorités de l'aviation de leur pays. Terminons avec le groupe bancaire panafricain Aura Group qui a fait son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières hier à Lomé au Togo avec une levée record de 56,92 milliards de francs CFA. 20% du capital d'Aura Group est désormais coté en bourse. Parmi les actionnaires qui conservent les 80% restants, l'investisseur panafricain Emerging Capital Partners demeure l'actionnaire de référence avec plus de 50% des parts. Aura Group devient le deuxième groupe bancaire basé au Togo et coté à la BRVM après Ecobank.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour. Ligue des champions, le tourbillon Messi ramène le Barça en demi-finale.
Revoilà Lionel Messi en demi, double buteur. L'Argentin a donné le tournis à Manchester United 3-0 pour ramener le FC Barcelone dans le dernier carré de la Ligue des champions. Ce mardi en quart de finale, retour une première depuis 4 ans. Messi a frappé 2 fois en 4 minutes au Canu, éteignant la très brève révolte anglaise. D'abord d'un tir enroulé au ras du poteau. Ensuite, avec l'aide du malencontreuse du gardien adverse David De Gea, c'était à la 20e minute, avant que le Brésilien Philippe Coutinho n'alourdisse le score d'une frappe somptueuse à la 61e minute.
La grande surprise, Eric, c'est la défaite de la Juve. On n'arrête plus l'Ajax.
C'est un exploit insensé, retentissant qu'a réussi la jeune équipe néerlandaise. Après le Real en 8e de finale, triple tenant du titre, c'est l'équipe de Ronaldo, le quintuple vainqueur, le Monsieur Ligue des Champions, que Frankie de Jong et sa bande ont laissé au tapis. L'Ajax Amsterdam a donné une leçon de football à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. 2-1. À l'aller, c'était 1-0. Et s'est qualifié ce mardi pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est donc fait et l'Ajax a changé de statut. L'équipe exaltante et rafraîchissante est devenue la terreur du plateau et une candidate au titre. Dans 15 jours, ils vont disputer contre Tottenham ou Manchester City la première demi-finale de Ligue des Champions de leur club depuis 1997. Et pour le club italien, cette élimination n'est pas un désastre. Elle ne devrait pas ouvrir de crise. Mais c'est un échec, sans aucun doute, parce qu'on ne va pas chercher Ronaldo pour s'arrêter en quart de finale, Idrissa.
Tottenham promet une bataille contre Manchester City.
L'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a promis de livrer une bataille ce soir en quart de finale au retour de la Ligue des Champions. Son capitaine Hugo Lloris s'est dit prêt à souffrir contre Manchester City. Le duel 100% anglais pour une place dans le dernier carré de la Champions League sera difficile car Manchester City jouera une finale aujourd'hui. Notre référence est le match que nous avons joué il y a une semaine, a continué le manager des Spurs, vainqueur 1-0 au match aller. De son côté, Manchester City estime que c'est le meilleur moment pour montrer à quel point il a grandi. C'est maintenant ou jamais, insiste Pep Guardiola, le technicien des Citizens. Dans l'autre match, le finaliste de la dernière édition, Liverpool, se déplace à Porto pour confirmer sa victoire 2-0 du match aller. Après le match magistral de Mohamed Salah dimanche face à Chelsea, Liverpool semble aujourd'hui imprenable.
Premier round des playoffs de la NBA, Conférence Est, Toronto a battu hier Orlando 111-82, une victoire partout dans cette série. Idem dans la série San Antonio-Denver en Conférence Ouest, une victoire partout après celle des Nuggets hier soir sur les Spurs, 114-105. En revanche, Portland mène 2-0 dans sa série avec Oklahoma City.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, appel à des actions disciplinaires après le rapport de Global Witness dénonçant la vente de permis forestiers illégaux. Le député Claudel Lubaya veut que l'on donne au chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, le général Amissi Koumba, alias Tangofo, l'occasion de présenter ses moyens de défense. L'officier congolais est cité dans le rapport de Global Witness, publié mardi, pour violation du moratoire concernant les concessions forestières. Eddie Sango a joint le député Claudel Lubaya.
Ce rapport de Global Witness n'est pas le premier. Il rejoint plusieurs autres rapports sur le même sujet, mais sur bien d'autres sujets. Et tout cela a conduit autrefois le gouvernement américain ainsi que l'Union européenne à infliger des sanctions à l'endroit d'un certain nombre de responsables congolais, dont le général Amissi. Et aujourd'hui que Global Witness revient encore sur les mêmes faits, j'estime qu'à la faveur de l'alternance arrivée à la tête du pays le 30 décembre 2018, il y a lieu que la République, comme bien sûr la hiérarchie militaire, soit préservée de toutes ces suspicions, de toutes ces dénonciations répétées. Et que pour cela, la procédure la plus simple, c'est que le ministre de la Défense, qui est l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné, puisse tout simplement l'ouvrir une action disciplinaire.
Mais là, on parle de la compagnie Maniema Union 2, qui a appartiendrait plutôt à la famille du chef d'état-major adjoint des FARDC, mais pas lui directement.
Oui, mais pas lui directement, mais ça concerne sa famille et c'est lui qui est cité. C'est pour cette raison que pour préserver l'honneur de sa famille, pour préserver la dignité aussi de sa famille, il est important qu'au niveau de la hiérarchie militaire, spécialement au niveau du ministère de la Défense, qu'une procédure légale soit ouverte, qui est régi par la loi portant statut du militaire en son article 110 pour permettre tout simplement à l'officier concerné de fournir ce moyen de défense qui pourrait le mettre lui-même à l'abri de toute cette dénonciation, mais aussi clarifier définitivement cette situation qui ne fait que perdurer.
Le général dont on parle ici n'a pas arraché de lui-même ses contrats, mais comment expliquer, je sais que vous n'êtes pas du gouvernement, que le gouvernement en 2018 ait révoqué des contrats attribué à des tiers pour les redonner à la compagnie appartenant à la famille du général et qui l'a revendu en 3 jours seulement aux Chinois.
Ce n'est pas sur les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, que cela va avoir de réponse. C'est pour cette raison que je fais appel au sens de responsabilité de l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné.
C'était le député Claudel Lubaya, leader du parti Union démocratique africaine originelle.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Pour avoir une certaine transparence dans la délivrance des états financiers, l'Ordre national des experts comptables du Sénégal impose maintenant l'obligation de visa. Le visa atteste que les états financiers présentent une cohérence d'ensemble. Loin d'être une simple formalité, le visa des états financiers vise à procurer les garanties minimales de fiabilité à l'information contenue dans les états financiers produits par les entreprises et utilisée par différents acteurs publics et privés. Une initiative sous-régionale portée par l'UEMOA et l'OHADA. Précision de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
En cohérence avec la réglementation de l'UEMOA et de l'OHADA, la mission de visa obligatoire des états financiers vise à assurer l'harmonie, l'unicité ou encore les états financiers par les entreprises, comme l'affirme Serigne Moustapha Ka, président de l'Ordre des experts comptables du Sénégal.
C'est vraiment un service public qui nous a été confié par les autorités pour fiabiliser l'information financière, sécuriser l'information financière et aider les acteurs économiques à avoir un outil performant dans leur gestion. Donc cette mesure pour nous nous devrait permettre d'améliorer de façon sensible et substantielle l'information financière délivrée par les acteurs économiques. Ce sera également l'occasion d'avoir un accès beaucoup plus facile à l'expert comptable ou au comptable agréé.
L'obligation de visa est un gage de transparence de l'information financière. Elle va également concourir à l'augmentation des recettes fiscales. Alain Paulsen, directeur de communication de la Direction générale des impôts et domaines.
Je dirais dans le long terme, parce que si on a des états financiers qui sont mieux tenus, les résultats qui sont déclarés sont plus conformes à la réalité. Il faut savoir que l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les revenus, se base sur les revenus dégagés par l'exploitation de l'entreprise. Et donc, si les états sont de meilleure qualité, on a plus de chances que les résultats dégagés traduits par ces états-là soient plus conformes à la réalité. Et donc, l'imposition devrait se faire à travers ces résultats-là qui sont de meilleure qualité, nous l'espérons.
L'obligation de visa est la solution aux nombreuses plaintes des banques sénégalaises qui fustigent la multiplicité des états financiers. C'est en tout cas l'avis du président de l'Ordre des experts comptables du Sénégal.
Dans la mesure où les banques savent que maintenant tous les états financiers sont accompagnés d'une attestation et que cette attestation contient les informations pertinentes des états financiers, l'agent économique qui s'adresse à la banque n'a plus les moyens de donner de doubles états financiers ou des états financiers multiples. Dans la mesure où la banque est habilitée à demander l'attestation qui accompagne les états financiers. Dans ce cas, le problème est réglé parce qu'il n'y a qu'une attestation pour des états financiers.
Le visa des états financiers des entreprises par les membres de l'Ordre des experts du Sénégal a été institué le 9 février 2018. Pour l'année 2019, l'application de la mesure est élargie à tous les centres fiscaux pour les entités relevant du champ d'application de l'arrêté. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus sérieusement menacés par le changement climatique, mais les Ivoiriens ont-ils pris la mesure des dangers qui les guettent ? Des partis écologiques et des ONG tentent de faire de la sensibilisation, nous dit Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
On avait en 1960 autour de 16 millions d'hectares de forêts primaires. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un million.
Antoinette Coucougnon est la présidente du CCJD, le Conseil pour la cohésion, la justice et le développement, un parti écologique né en 2016. Outre l'exploitation abusive des forêts, le parti d'Antoinette Coucougnon dénonce notamment la destruction des sols, l'érosion côtière, la pollution des eaux et l'émission des gaz nocifs. Pour elle, il est temps que l'écologie soit au centre du débat politique, social et économique en Côte d'Ivoire.
L'idéologie écologiste n'est pas encore perceptible sous nos yeux, mais nous avons nos arguments. Puisque nous avons les chefs de terre avec lesquels nous travaillons dans le monde rural, nous avons nos arguments qui amènent ces populations, ces communautés-là, à comprendre de mieux en mieux l'écologie.
Des ONG comme la Page Verte tentent aussi de sensibiliser les populations sur les dangers qui menacent la Côte d'Ivoire au plan environnemental. Kobena Kwame est l'un des responsables de cette ONG.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que les Ivoiriens sont intéressés, bien que ce ne soit pas la grande majorité. La plupart, c'est le manque d'informations et puis aussi des enjeux climatiques. Il y a des gens qui n'ont aucune information là-dessus.
Jean-Roch Dadi est étudiant et milite dans une organisation écologique. Pour lui, il faut davantage de sensibilisation.
À Abidjan, par exemple, on voit encore des jeunes qui, par des gestes, montrent qu'ils ne sont pas écolos parce qu'ils peuvent même se nettoyer avec le papier Lotus et puis le jeter partout. Et les mesures d'accompagnement, c'est que des poubelles soient installées un peu partout et faire une éducation. Parce que certes, les poubelles peuvent être installées, mais s'il n'y a pas une sensibilisation, les poubelles ne serviront à rien.
Pour Marc Dobré, directeur général de Green Invest Africa, une entreprise de conseil dans le domaine environnemental, le manque d'informations est à l'origine de certains comportements.
Ce n'est pas un désintérêt. Moi, je pense que c'est d'abord une question peut-être de prise de conscience et de mentalité. On n'a pas toujours les informations, on n'a pas toujours conscience, même si on le vit au quotidien, que le changement climatique nous impacte, fait que nos rendements sont de plus en plus médiocres, que nous pouvons être à tout moment inondés par l'érosion côtière. On n'a pas toujours cette conscience-là, que les déchets qu'on gère mal ont un impact sur notre santé et sur notre cadre de vie. Donc il faut beaucoup de sensibilisation.
Il y a urgence à changer de comportement et à prendre des mesures adéquates pour faire face au changement climatique, selon Alain-Serge Kouadio, directeur de l'économie verte au ministère de l'Environnement.
La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus vulnérables. Nous occupons la 140e place sur 176, dont l'indice de vulnérabilité est l'un des plus élevés au monde. Et l'impact socio-économique et l'impact humain est vraiment important. Aujourd'hui, on estime entre 2 à 6% de réduction de notre PIB du fait des changements climatiques, selon un rapport de la Banque mondiale.
Selon plusieurs experts, le changement climatique menace la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Retour sur l'incendie qui a ravagé lundi la cathédrale Notre-Dame à Paris. La charpente a été détruite, la toiture sinistrée et la flèche emblématique s'est effondrée. Le montant de sa restauration est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et pourrait durer 10 à 20 ans. Claire Morin-Gibourg a joint l'architecte parisien Louis Picot.
En fait, moi, j'habite dans la Goutte d'Or, dans le 18e. Donc, j'ai une fenêtre qui donne sur Paris, un peu en hauteur. Et j'ai vu la fumée, en fait, blanche, très importante dans Paris. Et donc, j'ai tout de suite pensé à un attentat, en fait. Quand j'ai appris que la cathédrale était en feu, je recevais une amie qui est historienne d'architecture et d'art. Et elle me dit qu'elle est très étonnée parce que une semaine avant, ont été déposées plusieurs sculptures d'anges ou d'archanges qui étaient entre autres positionnées sur la flèche de la cathédrale. Elles ont été déposées pour des histoires de rénovation en fait. Et alors on en parlait tous les deux et on se disait que c'est comme si on avait touché à une protection qui n'était plus là et que le feu était arrivé. Et comme on est dans un lieu touche au sacré et à l'énergie, on s'est posé des questions en fait sur ce hasard, cette chronologie.
Apparemment, ce que les experts disent, les travaux de rénovation sont toujours potentiellement plus dangereux en matière d'incendie.
Ça dépend complètement de la nature des travaux de rénovation parce qu'en fait, pour déclencher un incendie, il faudrait du gaz, de l'électricité, ou des artisans qui travaillent avec des chalumeaux ou des choses comme ça. S'il y avait un câblage électrique provisoire, alors oui, par exemple, qui passait dans la charpente, je ne sais pas comment s'est déclenché l'incendie.
Et en tant qu'architecte, avez-vous tout de suite mesuré l'importance que les dégâts allaient avoir ?
Oui, j'ai pensé à ça parce qu'une charpente en chêne très ancienne qui prend feu de cette façon-là, le chêne est un bois extrêmement dur et qui brûle très bien quand il est chaud et qu'il est en train de brûler, donc c'est difficile à éteindre.
Êtes-vous touché par l'émotion internationale générée par ce gigantesque incendie ?
Oui, moi je trouve ça intéressant parce que finalement ça, les gens se retrouvent reliés. Maintenant, pour moi c'est une évolution, c'est une transformation. La destruction, ça fait partie de la vie aussi. Et tout cet émotionnel humain qui est largement amplifié par les médias, je prends de la distance. Je suis assez peu touché, en fait, par la destruction d'un bâtiment ou d'un monument parce que, pour moi, ça génère de la transformation et une situation différente, nouvelle. Et j'y vois pas la fin de quelque chose ou la mort de quelque chose, mais plutôt une transformation.
L'architecte parisien Louis Picot, témoin de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.